Chers auditeurs de Radio Silence, bonjour. D'abord, tous mes vœux, quoique tardifs, pour que la nouvelle année vous apporte les satisfactions que vous désirez. Je souhaite, quant à moi, qu'elle nous accorde à tous la grâce de voir enfin démarrer cette croisade, car cela nous ferait entrer dans l'an 1 d'une ère nouvelle. Je vous en parlerai plus loin. Ma dernière émission remonte à juillet 2010. Je vous prie de bien vouloir excuser ce long silence dû à des circonstances personnelles qui m'y ont contraint. Je ne m'attarderai pas sur la récente polémique qui a rebondi dans Science et Avenir. La polémique vient toujours des adversaires de l'authenticité qui y ont intérêt. Mais cette question, nous la considérons tranchée depuis longtemps. D'abord par l'Église, qui lui a dédié en 1506 une messe spéciale qui n'a jamais été abrogée. D'autre part, par les études scientifiques sérieuses effectuées depuis plus d'un siècle, à partir de la fameuse photo de Secondo Pia en 1898. Donc, tant du côté de l'Église que de la science, l'affaire est classée. Ce qui nous intéresse donc, ici et maintenant, c'est cette fameuse croisade dont je vous entretiens depuis 2006 sur Radio Silence. Cette croisade est toujours bloquée, peut-être pas pour longtemps. Espérons-le du moins et voyons pourquoi. Si nous avons tenté depuis 1999 de la lancer, nous avons aujourd'hui la conviction que ce n'était pas à nous, ni à l'UNEC, de le faire, mais à la Fraternité Saint-Pie-X. Je voudrais tout d'abord rappeler ici un document adressé à Mgr Fellay en 1999 pour attirer son attention sur ce sujet d'une extrême importance. Pour donner à ma demande une allure solennelle, je l'avais disposé au milieu d'une page de façon que le texte essentiel se présente comme inscrit en majuscule d'imprimerie dans un grand cercle. Ce grand cercle était placé entre deux bandeaux, l'un au-dessus, l'autre au-dessous. Voici ce que disait le texte essentiel. Pressant appel et respectueuse supplique à Mgr Bernard Fellay et à la fraternité tout entière à propos du linceul de Turin et en vue du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le bandeau du haut, croisade universelle du linceul de Turin. Dans celui d'en bas, une courte prière rappelait deux miracles concernant le Saint-Suaire, celui de l'impression inexplicable de son image, non faite de main d'homme, et celui de sa conservation depuis 2000 ans, malgré les incendies qui auraient pu le détruire. Un troisième miracle était demandé à Jésus pour l'introduction de son règne. À cet appel, Mgr Fellay m'avait répondu en se déclarant persuadé que le Saint-Suaire est un excellent argument apostolique et apologétique. Il m'encourageait dans cette entreprise et la bénissait. J'étais heureux de cette réponse et en même temps vaguement déçu. Je m'adressais à la fraternité avec l'intuition qu'elle avait un rôle essentiel à jouer. Cette réponse n'était pas négative, certes, mais elle avait comme un goût bizarre d'insuffisance. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, après un travail épistolaire considérable de plus de 1500 lettres et la préparation du matériel nécessaire, je constate que tout ce travail n'a pratiquement servi à rien, qu'il n'a converti personne, et que la fraternité, sollicitée pourtant de façon solennelle, ne s'est toujours pas engagée. Or, quel est le rôle assigné par Mgr Lefebvre à cette fraternité, fondée par lui en 1970 ? Il voulait assurer la transmission de la tradition dans l'Église, rappeler les vérités oubliées ou bafouées par le Concile Vatican II, et ramener si possible l'Église sur le chemin dont elle s'écartait. Au sujet du linceul, quelle était l'erreur ou la défaillance de l'Église ? C'est qu'elle ne répondait pas de façon adéquate au signal de la Providence. L'image obtenue par la photo de Secondo Pia avait été, pour ses artisans ou ses témoins, une bouleversante révélation. Le visage de notre Seigneur, sur le linceul, était auparavant inexpressif, comme l'est toujours le négatif photo d'un visage. Que l'expression de son visage apparut tout à coup, au bout de 19 siècles, n'y avait-il pas là un signal de la Providence visiblement lancé à l'intention du XXe siècle ? Que devait faire l'Église ? Répercuter évidemment cet événement sensationnel de toutes ses forces en direction du monde. Comment négliger ce signal ? C'était comme une nouvelle apparition de Jésus, une nouvelle épiphanie. Comment ne pas lui répondre par une information de grande envergure ? Une croisade semble bien correspondre à une telle réponse. Mais l'Église était muette. Puisqu'elle ne répondait pas à ce signal, qui devait le faire à sa place, si ce n'est précisément la Fraternité Saint-Pédis ? Telle est la raison fondamentale pour laquelle il me semble logique d'estimer que c'est à elle que revient ce devoir de suppléance et à personne d'autre, à mon humble avis. J'ai également pris conscience que la défaillance de l'Église n'était pas seulement celle de l'Église issue de Vatican II, mais également de ses pontifes précédents tout au long du XXe siècle, et même du Saint-Pape Pie X en personne. Voyons notamment ce qui s'est passé en 1902, 4 ans après la photo. Cette année-là, une communication du professeur Delage devant l'Académie des sciences établissait l'authenticité du linceul en se basant sur la photo de 1898. Mais l'agnostique Marcellin Berthelot, président de cette académie, violemment anticlérical, s'opposa à sa publication. Le pape Pie X, appelé au Saint-Siège l'année suivante, aurait pu, en lançant une croisade, rappeler ainsi les fondements de la foi chrétienne, inscrits sur le linceul, et attirer l'attention de tous sur Jésus-Christ, en le replaçant au centre de la vie politique du monde, rappelant notamment son autorité de divin législateur. Comment n'y a-t-il pas pensé ? Comment personne ne lui en a-t-il pas soufflé l'idée ? Il aurait alors eu raison de l'athéisme hargneux du savant. 2 années plus tard, il aurait pu s'opposer à la vigoureuse attaque contre l'Église avec la loi de séparation qui en a résulté. L'histoire du XXe siècle en eût été changée. Je remercie Mgr Felet de ses encouragements, mais je comprends aujourd'hui pourquoi je m'étais senti quelque peu déçu par sa réponse. Néanmoins, mieux vaut tard que jamais, c'est donc à la Fraternité de remplir désormais ce devoir. C'est pourquoi je demande à nouveau à Mgr Felet, très solennellement, comme en 1999, et avec tout le respect que je dois à sa haute fonction, de bien vouloir se pencher sur ce problème que j'ai tenté maladroitement de résoudre à sa place, puisqu'il m'y avait encouragé. Je comprends mieux également pourquoi, depuis 3 ans, je n'ai pas pu obtenir de tous ces prêtres la collaboration nécessaire. C'est que ce n'était pas à moi, ni à l'UNEC, de solliciter cette collaboration, alors qu'une décision de leur supérieur général l'eût obtenue immédiatement, sans scepticisme et dans l'enthousiasme. C'est cette décision que j'attends à nouveau de Mgr Felet, officielle ou officieuse, bien qu'il s'y soit refusé à plusieurs reprises. Car s'il ne le faisait pas, personne ne le ferait à sa place, et ce serait dédaigner le signal de la Providence. Ce serait dédaigner la balise de secours envoyée du ciel. Ce serait dédaigner cet étendard de notre salut qu'est, selon saint François de Sales, le linceul de notre Seigneur. Pour terminer, rappelons que Mgr Lefebvre, vers 1928, encore jeune séminariste, plein de zèle et d'enthousiasme, s'était engagé à la confession de Saint-Pierre à Rome dans une croisade pour la royauté sociale du Christ roi. Avec un tel précédent, Mgr Felet pourrait donc très facilement reprendre à son compte notre croisade, qui lui est en tout point semblable. La présente émission est terminée. La prochaine aura lieu le 17 février. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas. Veuillez m'écrire à radiosilence@wanadoo.fr ou à notre boîte postale BP29 92 332 Sceaux. Au revoir.